France Inter.
Bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on reçoit un artiste rare de ceux qui façonnent une époque autant qu'il l'accompagne. Depuis près de 20 ans maintenant, son écriture, son humour, ses contradictions assumées et sa manière unique de raconter le monde ont installé sa voix au cœur de la pop culture française. Aurel San est revenu avec un nouvel album, La Fuite en Avant, un disque qui marque une nouvelle étape dans son parcours, plus introspectif, plus direct, peut-être plus adulte aussi, même si promis, je ne tomberai pas dans le cliché ultime en le qualifiant d'album de la maturité, un album événement qui convie aussi bien Thomas Bangalter, moitié Daft Punk, les stars de la K-pop 50-50 ou l'un des nouveaux leaders de la scène rap francophone, SDM. Et puis il y a aussi Yoroi, son nouveau film sorti le 29 octobre dernier, un projet qui prolonge sa passion pour le storytelling, pour la pop culture japonaise, pour les récits initiatiques qui mélangent poésie et super-héros du quotidien. Avec ce film, il explore encore un autre terrain, même s'il officie forcément comme un miroir de l'album. Aujourd'hui, on va parler musique, cinéma, travail, de la tournée titanesque qui se profile en 2026 et de ce qui pousse encore Aurel San après toutes ces années à créer des histoires qui touchent autant. Qu'elle soit chantée, rappée ou filmée, Aurel est avec nous à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Salut Aurel San.
Quelle bonne vibe pour commencer.
T'aimes bien la prod?
Ouais, j'aime trop, c'est soul, c'est funky.
Bah merci, merci de enfin quelqu'un qui le dit. Il y a une vibe un peu Curtis, moi, c'était
ouais,
ça.
Ouais, Curtis Mayfield à fond, pas Curtis Jackson.
Non, Curtis Mayfield, pas 50 Cent. Tu viens donc, il y a un nouvel album, La Fuite en Avant. J'ai dit que je n'allais pas parler de l'album de la maturité, parce que c'est un poncif un peu éculé, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça dans le fait que tu abordes quand même des nouveaux thèmes, évidemment,
ouais.
Que tu avais un peu abordé dans le passé, mais ce qui n'était pas encore ta vie, notamment la paternité, la peur de vieillir, quelque part, la peur de créer des traumas aussi dans l'éducation que tu vas donner à ton enfant. Est-ce que tu le sens un peu comme ça, mine de rien, comme un album qui, même si tu as expliqué dans quelques interviews qu'il avait été facile à écrire, finalement, plus facile que d'autres.
Plus facile que Civilization, ça c'est
que
sûr.
Que précédent, ouais. Mais est-ce qu'il est quand même, il marque une forme de passage vers une forme de côté adulte, en tout cas?
Ouais, déjà quand je dis facile, c'est pas facile. Okay. C'est genre je fais quand même des diversions de chaque morceau, j'écris pendant un an et demi à fond, mais il n'y a pas eu. Ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup taffé, mais c'était quand même, j'étais
plus naturel.
J'ai pas sorti des enfers comme Civilization, ouais. Où j'étais dans une introspection.
C'était l'album le plus dur à sortir,
réflexion globale.
Ouais.
Parce que je voulais faire un truc, parce que je voulais sortir de moi, je voulais me renouveler, et je voulais parler de trucs larges, tu vois.
Okay.
Et là, cet album, je le vois plus comme, un peu comme le film. Déjà, l'album, c'est vraiment un album concept. Ça veut dire, il y a un début, tout, c'est un ordre, vraiment. C'est l'ordre. Il y a une structure narrative où c'est une histoire où le personnage, au début, il a un point et il avance jusqu'à arriver à la fin. C'est vraiment une histoire, tu vois.
Ouais.
Et je le voyais vraiment comme une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de son passé, qu'est-ce qu'on fait de ses émotions, comment ne pas être en réaction, qu'est-ce qu'on fait de, justement, des réflexions sur les responsabilités, sur qui est-ce qu'on a envie d'être.
Ouais.
Et c'est pour ça que je voulais lui donner un peu ce côté, un mélange de passé, de présent et de futur, tu vois.
Ouais.
Et c'est là où ça peut paraître plus mature, parce que le concept de l'album, c'était, parce qu'il est vachement lié au film Yoroi, en
bien
fait.
Sûr.
Et Yoroi, c'est un peu ça aussi. C'était de reprendre un peu plein de styles que j'avais pu faire et de les remettre à la, comment dire, de les réinterpréter un peu
ouais,
aussi,
ouais.
Tu vois.
Alors, tu parles du début, milieu, de fin. Et la fin de l'album, justement, c'est ce morceau, le morceau Yoroi avec Thomas Bangalter.
Tu peux fuir, tu peux te blinder, tu peux te recouvrir de métal. Quand la vérité vient frapper, ça fait quand même mal. Tu peux survivre et remonter, tu peux décrocher les étoiles. En vrai, le monde, c'est ce que t'en fais, mais faut travailler. Deviens meilleur.
Ça, c'est la conclusion de l'album.
Ouais.
Et évidemment, tu l'as déjà dit dans le passé, c'est que c'est important pour toi, les Daft Punk, dans ton éducation, dans ton parcours d'auditeur. Quand tu décides et que tu inities cette collaboration avec Thomas Bangalter, est-ce que tu sais que ça va être le morceau de fin? Est-ce que tu as déjà un plan en tête?
Ouais,
quand
là,
tu contactes...
j'avais complètement un plan en tête.
Okay.
On voulait faire le générique de fin du film,
film.
Et de l'album. Ça veut dire que je savais sur quelle note je voulais rester. On savait qu'on voulait un côté énergique. On savait qu'on voulait un truc qui est un peu ref à des génériques, tu vois, qui peut faire un peu générique de dessin animé, okay. musique de jeu vidéo. On savait qu'on voulait un truc à la fois vintage et moderne qui passe dans plusieurs époques, tu vois. Et ça, quand je l'ai briefé à Thomas Bangalter, il m'a dit « Ah ouais, génial, il a vu le film. » En plus, il a vu le film sans effets spéciaux, sans rien. Donc
ouais,
il a
versions
vraiment,
de travail. Ouais.
Ouais, une version de travail. Il m'a dit « Ah ok, je capte, vas-y, super. » On s'est vu en studio 3 jours, on a bossé l'instru avec Scred, avec Faz, avec Thomas. Et au fil de la création du morceau, je me suis un peu perdu. J'ai fait un morceau un peu dark, tu vois, un peu... j'avais fait un truc et puis j'avais fait des structures un peu plus compliquées et tout. Et j'envoie à Thomas et il me dit « Ah franchement, il y a une bonne base et tout, c'est cool. Est-ce que si je peux me permettre, je crois que tu t'es un peu perdu au milieu du truc. On avait dit qu'on faisait un morceau un peu genre...
Positif,
ouais. Finir sur une note différente. Je voulais aussi pas finir sur la même note que mes albums d'avant parce que souvent, je finissais sur des notes un peu... réflexion,
ouais, ouais.
Un peu, je sais pas, note pour trop tard, civilisation, un peu
exactement.
Genre... Et du coup...
assez... Note pour trop tard qui est un morceau extraordinaire,
merci.
Sur la fête est finie, mais c'est vrai qu'il y a un morceau très deep, en
oui,
tout
c'est
cas,
ça.
Vraiment un morceau de réflexion.
Ouais. Et là, on voulait même que les gens sortent de la salle de cinéma avec genre la gouache, on okay. voulait un truc aussi, je sais pas, une émotion simple, tu vois, parce que rester dans des trucs un peu shonen, un peu un perso qui évolue et il arrive à la fin, et c'est Thomas qui m'a dit, là je pense que tu t'es perdu, je pense tu vois, et la phrase le monde sait ce que t'en fais, elle était au milieu d'un couplet et tout, il m'a dit ça c'est cette phrase,
okay.
remets-la là, change ça, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait lui, au-delà d'être un pur génie des instruments, parce que laisse tomber, il a une oreille de ouf, il connaît tous les synthés, le mix, tout ça c'est de la folie, mais c'est un génie de la structure, et je pense que c'est ça qui marche à fond dans les morceaux de Daft Punk, après, à part qu'ils font des morceaux de ouf. Enfin, moi, ça, je cherche même pas à comparer.
Ouais, ouais, bien sûr.
Mais je vais dire, en fait, c'est vrai que quand t'écoutes Daft Punk, les structures sont ouf, tu t'ennuies pas, et en même temps, il arrive à te tenir, et bam, il casse le truc.
Ouais.
Et c'est vrai que bosser avec lui, et il m'a fait aussi des retours sur le texte, dans le couplet, en disant, ah là, tu pourrais faire ça. Et je te jure, tout était pertinent.
Okay.
Et c'est rare quand même, enfin, des fois, il y a peut-être des trucs pertinents, et je m'en rends pas compte, mais c'est rare que je bosse avec des gens qui arrivent à rentrer dans les paroles et me disent, ah, tu pourrais prendre ça,
ouais,
faire
ouais.
ça. Et c'était trop bien.
Est-ce que, parce que on parlait Daft Punk, vous avez créé un son avec ton équipe, parce que tu travailles quand même avec des personnes depuis longtemps, bien sûr Scred, je crois que maintenant toute la France le connaît depuis le documentaire Ne le dit à personne, mais aussi toute une autre équipe, Faz et Deep Purple, des gens qui sont avec toi depuis La Fête est finie notamment, ou peut-être un
ouais,
peu avant
depuis,
même.
Faz il est avec nous depuis La
ouais.
Fête est finie, et Scred il est avec nous depuis le début,
Scred,
et Eddie il est avec nous depuis Le Chant des Sirènes. Donc
ouais,
on,
donc tu vois, il y a des nouveaux acteurs quelque part qui viennent au fur et à mesure.
Ouais.
Est-ce que ça fait du bien parfois d'avoir quelqu'un comme, évidemment Bangalter, ça fait du bien, mais en tout cas d'autres personnes qui viennent peut-être dynamiter aussi votre manière de produire, parce que peut-être que parfois on est ensemble, vous connaissez un peu trop bien. Est-ce que des fois on a besoin de ça?
Ça fait du bien sur un album, c'est pour ça qu'il y a des feats, tu vois,
ouais.
c'est pour ça qu'il y a des invités, c'est pour ça qu'on part dans des vibes. Mais moi j'aime aussi beaucoup bosser avec Scred,
cette ossature là,
avec
ouais.
cette ossature là, parce que surtout pour cet album où c'est le concept vraiment de créer notre son, j'avais envie vraiment d'affiner notre son, tu vois. Je trouvais que pour l'instant sur tous les albums, les quatre, il y avait petit à petit des sonorités qui s'ajoutaient, et celui-là je voulais vraiment comme l'album d'Orelsan, tu vois, genre
okay.
voilà, c'est ça, ça c'est notre son, on fait ça, c'est un mélange de trucs UK un peu
ouais,
électro
ouais.
avec des flows un peu UK grime mélangés avec un son un peu français et un peu américain, et au milieu de ça des balades.
Alors, j'ai dit d'ailleurs que le documentaire c'était ne le montre à
ne
personne.
Ne le montre à personne.
Ne le dis à personne,
ouais,
c'est un film de Guillaume Canet.
Ouais.
J'ai confondu voilà,
ça,
le film de Guillaume Canet et le documentaire. Tu dis que parfois on fait des feats aussi pour pour ramener aussi la diversité. Et il
ouais.
y a un feat notamment sur l'album, c'est celui avec SDM.
Désolé, t'es pas gang gang. Andromède quand je me déchaîne. O-R-E-L-S-D-M. Je rentre dans ma période des BZ. Ils ont tous le nez dans la planche. Si enneigé, faut mettre des chaînes. Personne n'a peur de ce qu'il attend. Jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.
Gras, j'allume la lumière avec un Glock. J'commence mon couplet avec un gras. J'démarre ma carrière d'artiste avec un pote. J'commence à l'arrière, j'finis devant. J'te file des lits, j'te fais 10 balles le vin. J'pousse cette merde et le soleil le vent. Et j'quitterai ce monde avec un verre de vin.
Soleil le vent, donc, qui était aussi le titre d'un film avec Wesley Snipes, c'est Sean Connery. Voilà,
ouais.
rien à voir, mais. là, dans ce genre de morceau, parce que Il y a des collaborations qu'on fait parce qu'on a envie de faire de la musique avec quelqu'un. Et puis il y a des collaborations qu'on fait aussi parce qu'on a envie de faire de la musique, mais parce qu'il y a une aspect de compétition aussi dans le rap. Et toi, t'as rappé avec tout le monde. Et parfois, moi, j'ai l'impression qu'il y a des feats que tu fais où t'as aussi envie de te confronter au ténor du moment. Je pense à celui avec Nino, par exemple, qui était un feat qui avait surpris à l'époque, ou avec SDM. Est-ce qu'il y a aussi ça, se dire, bon, là, on se fait un duel, quelque part, de rappeurs, qui est quelque chose que tu fais aussi depuis le début, toi?
Bah, ça peut arriver, mais là, c'était pas vraiment le cas. Là, c'était okay. Plus... comme le film, il est construit par rapport... comme l'album est construit par rapport au film, on avait besoin pour... il y a une scène de baston avec une milice dans Paris, où on avait besoin d'un truc ultra puissant, tu vois. Et donc, on a pensé à SDM. Okay. Et justement, celui-là, il est construit un peu le contraire. On s'est plus dit, moi j'arrive, je pose un truc un peu...
oui, il y a un changement d'instrumental.
Ouais, un truc un peu épique, et là, on le casse, on fait ce qui s'appelle un beat switch.
Ouais.
Et genre, là, on envoie le beat switch, et là, on a SDM qui arrive et qui envoie un couplet de Maboule, tu vois, un couplet archi puissant. Et c'était plus ça la volonté, tu vois. Je pense que la compète, j'aurais clairement perdu vu le couplet d'SDM.
Et... Je sais pas, mais c'est vrai qu'en tout cas, il arrive un peu dans un registre comme ça où tu sens qu'il veut impressionner aussi.
Ouais, mais justement, c'était le but. Bah, le beat switch, il est fait pour ça, en fait. Pour moi, c'est évident. Genre, on arrive, beat switch, et là, t'as SDM qui déroule, tu vois. Et c'est trop bien, je le vois plus comme. Moi, quand je joue à FIFA, j'aime bien jouer à deux dans la même équipe. Je suis pas forcément un mec qui joue contre l'autre. Je m'éclate plus quand on joue ensemble, tu vois. Et je vois plus genre, ok, je pose un truc un peu épique, machin. T'arrives et là, c'est parti. Tu fais la passe et t'as l'attaquant qui va et qui marque.
C'est marrant, je t'aurais plus vu jouer, imaginer à NBA Live qu'à FIFA. Pour moi, c'était plus un fan de basket que de foot.
Ben, bizarrement, alors j'ai fait du basket, mais bizarrement, je regarde pas la NBA, je regarde le foot.
Ok.
et je regarde les matchs de Malherbe. Et du coup, je suis plus un.
Ok.
Je joue à FIFA, je joue pas à NBA.
Bon, eh ben, très bien. Je pense qu'on écoute un morceau extrait de ce nouvel album, La Fuite en avant, et on va écouter le morceau ailleurs. Qui est un single et qui est aussi un morceau. Je trouve là aussi, il y a un son, Orelsan, dans ce genre de morceau. Donc on s'écoute ça tout de suite. Un extrait donc de l'album La Fuite en avant, ailleurs d'Orelsan.
Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oublie-moi. J'ai rien demandé à personne, juste éteint mon téléphone et j'ai tracé. Maintenant ça fait tut, 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 tut quand vous m'appelez. Plus j'imaginais l'avenir et plus j'avais l'impression de voir le passé. Quand on peut que subir, des fois faut juste s'en aller. Goodbye. Adieu les vieux potes toxiques, j'me casse. Adieu mon pays, merci, goodbye. J'ai un enfant à élever, je peux plus faire du sur place. J'ai plus de temps à perdre dans vos problèmes de base. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Et je les entends déjà dire que je suis parti sans prévenir, je les ai lâchés. Dès qu'ils trouveront quelqu'un d'autre, un sûr qui rejetait la faute, ça va passer. En vrai, je les ai attendus toute ma vie, mais jamais rien n'a changé. Plus je voyais ce qu'ils devenaient, moi je voulais leur ressembler. Goodbye. Adieu les drames, les gossips, je me casse. Goodbye. Adieu les news dépressives, goodbye. J'ai une famille à aimer. Faut que j'hiberne de l'espace. Mon cœur est limité, je dois faire de la place. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Et je serai plus jamais seul. Et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Et je serai plus jamais seul. Et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je
suis loin, 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 loin de vous. Oublie-moi.
Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs.
Ailleurs de Orelsan, donc présent sur La Fuite en Avant. Orelsan qui est notre invité ce soir.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Alors Aurel, avant de continuer à parler de La Fuite en Avant, je vais me permettre de donner quelques phrases sur toi. Tu me dis si elles sont vraies ou pas.
Vas-y, grave.
C'est le quiz des apparences. Alors tu me dis, Orelsan se donne une image de branleur, mais c'est un énorme bosseur.
Je crois pas que je me donne une image de branleur.
Au départ.
Oui, au départ.
Moi, j'ai l'impression que, tu sais, au début, il y avait vraiment ce truc de Orelsan. Il est là, il fait... bah, même tu l'as mis en scène, ça. Dans
ouais,
Commencer
bah,
loin,
oui, bloqué,
dans
Bloqué. C'est vrai.
Tu vois, il y avait vraiment ce truc-là. Alors
c'est
que
vrai.
T'enchaînais les projets,
oui,
les tournées.
Et puis les tournées et tout, qui sont un peu moins visibles, mais qui me prennent à chaque fois deux ans.
Ouais.
Et c'est... Mais je bosse. Par contre, je bosse tout le temps, effectivement. Ouais.
C'est un truc qui est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que t'es tout le temps en mouvement, en train de créer des nouveaux projets, ou est-ce que t'as un peu de temps aussi pour glander, comme tu peux te le permettre avant?
J'ai du temps pour mon enfant, glander, j'ai pas le temps de glander, ça c'est sûr, mais pour moi glander c'est faire mes projets en fait, je m'enferme dans le studio, j'écris, que ce soit un film ou même d'autres choses, tu vois, ou l'album, ou c'est ça pour moi mais j'aime faire ça. Donc en fait, vu que c'est ma passion, c'est pas non plus...
pas un problème, c'est
voilà,
au contraire.
Je vois pas ça comme du taf, quoi. Au contraire, je me dis, bon allez, je vais enfin pouvoir... Ouais. Limite, quand j'arrive à y aller, parce qu'en fait, il y a plein d'autres trucs à gérer à côté, et quand j'arrive à être tout seul, à écrire, et j'en profite, c'est pour ça que je dis que cet album, il a été un peu plus agréable à faire, parce que comme j'ai eu un bébé et tout, ça prend du temps, surtout au début, tu vois, les nuits
bien
et
sûr.
Tout, c'est compliqué. Et du coup, dès que j'avais le temps d'écrire, j'étais content d'écrire, tu vois.
Est-ce qu'il y avait aussi un côté, tu vas au studio, tu retrouves aussi tes copains,
ouais,
que tu voyais beaucoup plus facilement avant,
aujourd'hui. Ils sont carrément venus habiter chez moi pendant, je crois que Scred, il est resté genre 6 mois chez moi. Quoi.
Ok. C'était le pote sur le canapé, vraiment, pour de vrai. Quoi.
Après,
il est un peu plus
sur
le canapé aujourd'hui,
chambre,
j'imagine. Le statut a changé, mais c'était un peu ça, finalement.
Ouais, c'était bien.
Puisque tu parles de la paternité, justement, c'est un vrai sujet. Dans cet album, évidemment, il y a plusieurs même morceaux qui sont consacrés à ça. Et il y a une forme d'un côté de bonheur qu'on sent. Mais tu dis d'ailleurs, il y a une scène qui est dans le film où tu regardes l'actrice qui t'accompagne, tu lui dis, je crois que j'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment. Et c'est quelque chose qu'on ressent dans l'album, mais aussi qui est matiné de peur.
Ouais.
La peur d'être père que tu formalises, clairement. La peur de mal éduquer, de créer des traumas. Est-ce que ça, ces sujets-là, justement, ça a été compliqué d'aborder ça, d'aller sur ce terrain-là, ou au contraire, c'était très naturel pour toi d'aborder vraiment ce thème de la paternité à venir?
C'est en fait... Effectivement, tout ce que tu dis, c'est vrai, c'est que il y a une sorte de bonheur, et comme l'album, c'est une réflexion autour d'une thématique qui dit bonheur, dit avoir peur de le perdre, tu vois. Donc, et l'album, et c'est vraiment une réflexion sur les peurs, et donc, c'est une réflexion de qu'est-ce qu'on fait de cette peur, et cette peur, des fois, elle est saine, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que tu vas ne pas tomber dans le piège, tu vois, la peur te sert à ça. Et du coup, en fait, moi, je choisis pas trop ce que j'écris, parce que j'écris beaucoup et je fais des morceaux, et après, j'en ai tellement que les morceaux s'imposent d'eux-mêmes, tu vois.
Okay.
Et donc, par exemple, un morceau sur la paternité, c'est pas un calcul, c'est genre, j'ai plein d'idées...
Tu dis pas le matin, là, je vais écrire sur le fait d'avoir un enfant, c'est pas comme ça que tu
sens? Non, parce que je prends des notes, et donc, du coup... En fait, j'ai de l'inspi par rapport à ça. Je suis dedans. La période de la grossesse, c'était quand même quelque chose d'hyper important.
Ouais.
J'avais envie de vivre avec ma femme pleinement, tu vois. Et donc, forcément, je me suis renseigné là-dessus. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir là-dessus. Et puis, petit à petit, je commence à prendre des notes. Et à un moment, je me dis, bon, bah, je vais faire un morceau sur la grossesse. ça n'a pas été trop fait. Et puis, tu sais, c'est jamais vraiment évident... comme morceau de base,
sûr.
Je me dis, mais est-ce que j'ai envie d'écouter un morceau sur la grossesse? Et là, je commence à me dire, bon, comment je vais mettre ça en musique de manière à ce que ça devienne intéressant? C'est pareil pour l'intro, Le Pacte. Où, en fait, je me suis toujours dit, raconter...
C'est un morceau sur la notoriété,
La notoriété, ouais, sur le revers de la médaille, en fait. Je me dis, bon, j'ai plein de trucs à raconter là-dessus, évidemment, parce que j'ai vécu. Et je me dis, dans quel axe c'est intéressant? Parce que l'axe, je me plains d'être connu. On sait bien que tout le monde s'en branle. Et donc, mais je me dis, on est dans une période où tout le monde a envie d'être connu. On est dans une période où on va aller chercher beaucoup de fame, beaucoup de... Tu fais un post sur les réseaux, tu vas regarder comment ça marche. Tout le monde sait maintenant même comment orienter les posts. Et ça, ça marche même, même quand t'es...
Même quand on n'est pas connu.
Même quand on n'est pas connu, tu vois. Tu vas être... Enfin bref, tu vas faire un post sur je sais pas quoi, t'es des enfants ou quoi, t'es une mère de famille, tu vas réfléchir comment les gens vont prendre le truc.
Ouais.
Donc je me suis dit, en fait, c'est intéressant de montrer ça parce que ça reflète un truc de la société actuelle. Et l'idée, c'était de montrer, ok, tu veux ça, regarde, il va se passer ça, 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 ça. Est-ce que t'es prêt, tu vois, réfléchir à ce truc-là. Et c'est là où, l'album, c'est un album concept où c'est quand même plus des personnages, tu vois. C'est pas vraiment ce que je vis tous les jours parce que j'ai pas fait ce burn-out, tu vois.
Ouais, ouais, okay.
Mais c'est histoire un peu de raconter ça, de partir de ce truc de... T'as voulu un rêve, tu l'as eu, il y a des aspects négatifs à ce rêve. Maintenant, comment t'évolues une fois que tu n'as plus de rêve? Comment est-ce que tu vas retrouver, aller plonger dans ton passé? Et comment est-ce que tu vas arriver à devenir la personne que t'as envie d'être, tu vois?
Mais ça, c'est un vrai sujet, ça, en fait. Comment tu continues encore à être excité quand t'as coché toutes les cases que tu voulais cocher?
Bah, moi, dans ma tête, il y a plein de cases. Okay. Et en fait, il y a encore okay, plein de cases.
Ok, tant mieux alors.
Et en plus, c'est juste la passion, je pense. J'aime la musique. J'entends des nouveaux artistes. Je me dis, ah, il fait ça comme ça et tout. Ok, ah, vas-y, je vais essayer. Je regarde des films. J'ai des choses à raconter, tu vois. Parce qu'au final, ce qu'on raconte dans le film et dans l'album, la paternité, le stress, les angoisses et tout, c'est des sujets qui me parlent et donc j'ai envie de les mettre en musique, tu vois.
Ouais. Bon, en tout cas, on continue à parler de La Fuite en Avant tout de suite avec Orelsan. Et dans cet album, il y a un morceau qui s'appelle La Petite Voix, dans lequel tu dis beaucoup de choses.
Poum, 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 petite biatch. T'es qu'une fraude, t'es rien, t'es du vent, t'es qu'un mirage. On sait pas si t'es l'intello ou l'idiot du village. On sait pas si t'es Mélenchon ou la pute d'LVMH. On sait pas si t'es woke, si t'es réac, si t'es de gauche, si t'es de droite. Tu joues les écolos et casse les couilles avec ta marque. On sait juste que t'es faux, comme quand tu chantes faux. Quand tu fais le rappeur faux, comme ton jeu d'acteur faux. Ça se voit que t'aimes le cash, arrête de faire le mec s'info. Ça se voit que t'as de l'ego, arrête de faire le mec info. Avec ta méché motado lesbienne de province, t'aurais dû abandonner le rap au lieu d'abandonner cringe.
Donc j'ai vu quelqu'un parler de ce morceau et dire c'est le plus grand clash de l'histoire du rap français.
Ah ouais.
C'est un morceau, du coup, une petite voix et un personnage, Sama, en fait, t'attaque quelque part. Évidemment, c'est un exercice de style, mais tu parles aussi à un moment dans l'album, je crois que c'est dans le pacte, tu parles de certaines critiques qui parfois ont un fond de vérité et peuvent faire du mal. Là, on est avec un personnage qui te dresse, qui t'attaque pendant tout le morceau. Est-ce que tu te bases aussi sur des choses que tu as pu ressentir? Est-ce que parfois il y a des questions où tu te dis, est-ce que c'est vrai quand on me dit que je suis devenu trop lisse, etc. Enfin, est-ce que tu te nourris aussi de tes propres peurs, justement, quand tu écris un morceau comme ça?
C'est exactement ça. Ça, c'est le morceau, c'est mes propres peurs, tu vois. C'est des trucs, des fois, que j'entends ou des fois où juste moi-même, je me questionne,
la question,
tu vois. C'est un mélange de peurs, de clichés, En fait, la petite voix, c'est la petite voix négative à l'intérieur de toi, qui est un peu ton critique intérieur, qui va tout prendre et qui va tout transformer en un truc horrible, tu vois. Et comme forcément la vie c'est complexe et il y a du blanc et du noir, tu commences à... Et là, en fait, la petite voix, elle rend tout noir, tu vois. Et à chaque chose, mais c'est valable aussi pour Sama, à chaque chose que dit la petite voix, je peux te donner l'argument contraire, tu vois. Je peux expliquer les choses, mais pour ça, faut devenir intelligent. Il faut commencer à tout poser. Et c'est vrai que quand tu mets tout bout à bout, t'as l'impression que en fait, y a rien qui va, quoi. Et c'était aussi pour symboliser ce qui se passe dans la société actuelle, où je trouve que tout est blanc ou noir, tout est polarisé.
De plus en plus, en tout cas, c'est comme ça qu'on...
Les algorithmes et tout, ça pousse ça,
Exactement.
Et puis même, on a l'impression que les gens sont comme ça. Moi, je pense pas que les gens sont comme ça, mais l'impression qui se dégage, c'est que c'est ça. Et donc, la petite voix, c'est ça. C'est la petite voix qu'on écoute dès qu'on fait un commentaire négatif. C'est la petite voix qu'on écoute dès que... Et puis moi, je suis quelqu'un de, comment dire, assez stressé de base et je peux vite partir un peu dans le down, tu vois. Donc, alors qu'en vrai, tout est nuancé, tout est nuançable. Et...
Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu le sentiment de te perdre? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ah là, en fait, le Aurel de perdu d'avance, il serait pas content? Ou c'est plus un sentiment global, il n'y a pas vraiment de moment où tu t'es posé cette question.
Je trouve que la vie, c'est pas vraiment comme ça, tu vois, c'est genre, avec le recul, les choses changent.
L'Aurel t'évolues en fait, forcément.
Bah oui, l'Aurel le perdu d'avance, il a fait des choix à une époque précise, pour des raisons précises, et forcément, il y a des trucs bien et des trucs faux, comme il y a des bons morceaux et des morceaux nuls, tu vois, qui, dans ma carrière, il y a forcément des... Il y a des trucs moins bien et il y a des trucs super bien, et c'est ça, t'avances avec tes erreurs, tu vois. Je commençais Civilization en disant j'ai fait des erreurs et j'en referai, j'espère juste que ce sera pas les mêmes.
Ouais.
Je suis vraiment là-dedans, mais bien sûr, j'y réfléchis tout le temps, tu vois. Je me dis, bon, ok, j'ai fait ça, et puis des fois, c'est juste transformé par la façon dont les gens le prennent, et puis ça crée des trends, ça crée des courants de pensée, et du coup... Tu te dis, ok, moi j'ai fait ça dans cette volonté-là, c'est devenu ça, ça a été pris comme ça. Peut-être, je trouve aussi, on est dans un monde où il faut juste se battre et défendre ses opinions et dire, ok, toi tu me vois là, moi je vois ça comme ça, machin. Et en fait, et quelque part, c'est fun aussi, tu vois.
Ouais.
Enfin, fun. J'aime trop utiliser des mots ringards. Mais je veux dire, quelque part, c'est le jeu, il est là, tu vois.
Ouais.
C'est genre, et c'est ça une carrière aussi.
Ouais,
c'est des hauts, des bas. Et dire, oh là là, là j'ai fait ça, bon, c'était un mauvais choix. Mais des fois, il faut faire des choix, tu vois.
Mais tu vois, ça, c'est intéressant quand tu dis c'est une carrière. Une carrière, je veux dire, c'est long. Ça peut aussi être très très court, une carrière. Et surtout, ce qui est compliqué, je trouve, dans la musique, en toi, quand on commence à atteindre des niveaux de notoriété et de succès, c'est de durer.
Ouais.
Comment, toi, il s'avère que t'arrives à faire en sorte que chaque album, jusqu'à présent en tout cas, soit un événement. C'est-à-dire que celui-ci, ça en est un encore, le précédent en était un, La Fête est finie, pour moi, était sûrement ton couronnement, tu vois, à ce moment-là, avec une tournée incroyable. Est-ce que tu te poses cette question-là, tu sais, de créer un événement à chaque fois, un rendez-vous populaire?
Ouais, à chaque fois, je réfléchis à ce que je vais faire de nouveau, comment est-ce que je vais aborder. Par exemple, là, je me suis dit, je vais créer un album qui répond à un film, qui répond à une tournée où chaque élément peut marcher ensemble, tu vois.
Et indépendamment aussi.
Et indépendamment, un peu comme une espèce d'escape game ou de puzzle où tu prends tout et tu le mélanges, et en plus qui va se développer sur la longueur, tu vois.
Ouais, ouais.
Et ça, par exemple, je me suis dit, bon, ça n'a jamais été fait, tu vois. Et ça, je pense que les gens, ils le ressentent et qu'ils se disent, ah oui, ok, il y a une réflexion, les morceaux sont tous là pour une raison. Et aussi, je pense, je prends des risques, en fait. Je prends tout le temps des risques et je ne me repose pas trop sur mes acquis. Quand je fais... Il y a certains morceaux où j'ai des propos, où je sais que ça va être peut-être mal interprété, ou peut-être juste, on ne va pas comprendre exactement pourquoi j'ai fait ça, peut-être on va comprendre après. Et ou alors je vais faire juste un morceau de K-pop, tu vois. Et ou même tout simplement, mettons un morceau comme Ailleurs.
Ouais.
Pour moi,
qu'on a écouté.
Pour moi, t'écoutes pas Ailleurs comme un morceau de rap comme
Soleil Levant.
Album comme Soleil Levant ou comme Osaka. Et je sais très bien que certaines personnes vont bien aimer Osaka ou Soleil Levant, et quand ils vont écouter Ailleurs, ils vont dire là, je comprends pas, parce que c'est des kiffeurs de rap, tu vois.
Ouais.
Et ça, pour moi, c'est aussi un truc qui fait que je prends des risques, mais où au moins je fais ce que j'aime, tu vois, et où au moins je fais des propositions artistiques, tu vois, dans un sens comme dans un autre.
Et puis aussi, peut-être que tu es un artiste qui, je dis pas que ça rentre dans ta réflexion, mais tu parles aussi à des gens très différents aujourd'hui. Et même toi, t'aimes aussi des choses très différentes.
Ah bah ouais.
T'aimes faire des morceaux de rap comme Jimmy Punchline, qu'on va écouter après, j'avoue, un petit kiff perso, ou des choses très populaires. Et ça, finalement, tu l'avais un peu depuis le début de ta carrière. Il y avait déjà des refrains chantés, une volonté. Donc,
morceau Ramen, je chante sur le refrain.
Exactement. Donc c'est ça, en fait, aussi Orelsan, quelque part, depuis le début.
Ouais, complètement. Et justement, j'essaye d'affiner ce truc, de le crafter petit à petit, tu vois. Et c'est, je pense aussi, ça, j'ai développé, Scred, il appelle ça des bagues, tu vois. Et genre, il va dire, là, t'as une bague, t'as bague chanson, là, t'as une bague un peu style des fêtes de famille, chanson un peu à thème, ironique, tu vois. Et donc, moi, je construis des trucs comme ça, mais en fait, c'est vraiment motivé par ce que j'aime, tu vois, et ce que j'ai envie d'écouter aussi, parce que j'ai pas envie de faire des albums où, genre, tu prends pas de risques, et c'est 17 fois le même morceau, et ils sont tous un peu bien. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois très bien.
Et en vrai, je trouve que ce qui se démarque, même récemment, parce que là, je trouve en ce moment, le niveau de rap, je trouve qu'il est incroyable, tu vois. Je trouve que même le niveau de la musique globale, il est très élevé. Tout le monde est fort. Vraiment, je vois des gens sur TikTok inconnus qui seront peut-être jamais connus.
Et qui sont chauds.
Plein. Des meufs, des mecs, plein de gens. Et au final, je me dis, mais tout est fort, mais comment ça se démarque, tu vois? Et j'essaye justement de démarquer de ces trucs-là.
Ouais. Bon, je propose du coup qu'on remonte un petit peu en arrière, 2008, ouais. Perdu d'avance, qui est un album quand même qui a marqué. Ouais. On s'en rend compte, hein, y a beaucoup même de créateurs de contenu.
Alors
de
qu'il n'a pas trop marché à l'époque en plus.
À l'époque, moi je me souviens de la sortie, c'était un album qui a marché, je veux dire, avec le temps.
Ouais,
avec le
exactement.
Mais tu te rends compte, mais c'est aussi un moment, c'est compliqué parce que. Il y avait la crise de l'industrie du disque, donc parfois il y a des albums qu'on écoutait tous mais qu'on téléchargeait illégalement.
Ouais, ouais, donc, c'est vrai.
Ton album a aussi été pas mal téléchargé illégalement à l'époque. Mais en tout cas, on va s'écouter un morceau classique aujourd'hui, Jimmy Punchline.
Hey, pour les trois prochaines minutes, je veux qu'on m'appelle Jimmy Punchline. Oh, c'est le retour de la légende de Jimmy, même si je peux craquer à tout moment comme les jambes de Jibril. 2008, je lance le missile. Si t'écoutais pas de rap en 98, change de vinyle parce que je kick la prod à l'ancienne. Nique la mode, je viens kicker comme quand je kickais pour démarrer ma vol. Cherche pas de message dans mes faces, dans mes métaphores. Je fais ça pour le plaisir parce que je trouve que je déchire. Oh, je représente le 7. J'écris des textes tirés par les cheveux comme ta meuf en levrette. Je crache le feu sur ta bande de traîtres. C'est le remake de Sodome et Gomorrhe, un holocauste sonore. Je suis trop gore pour le grand public. De toute façon, je m'en branle des victoires de la musique. Je vise les hot d'or. Tous les jours, je me couche aux aurores et je pars au taf avec une gueule d'enterrement comme si j'étais croque-mort. Je suis les Beatles pour les jeunes ados. Je pourrais passer sur Sky même si mon single s'appelait Fun Radio. Je crache dans tes règles, ça fait ketchup mayo. Je te baisse sur un tas de boîtes, attrape une syphilis de derrière les fagots. Je distribue des CD dans l'hexagone pendant que tu distribues tes CV dans les McDo. Alors je comprends que tu voudrais faire un feat, mais moi je voudrais un Big Mac et une grande frite. Et ça fait un pour mon estomac, deux pour ma bite. Passe Normandie 14 000, tu sais où j'habite. Jimmy, 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 viens t'ôter la vie. Je t'envoie en chimie, chimio, chimio, thérapie. Oui c'est gratuit, je suis bête et méchant. Si je dois mettre des gants, je t'arrache la jugulaire avec les dents. Et quand on fait la fête, c'est tes parents, ça part en tapage nocturne. On fait tourner le cul de la vieille alors que personne fume. Laisse-moi prendre ma respiration. Je devrais être sponsor MSN, tout le monde prend mes citations. Trouve-moi en pleine méditation, dans un débit de boisson. Ma gueule de bois prépare. C'est Pinocchio pour un vrai petit garçon. J'écris des tubes à l'encre de banane. Je t'enfile des trucs via l'antre de ta femme. T'arrives à rapper super vite, pas mal. Mais si t'as du flow et pas de parole, tu seras jamais plus fort que Scatman. T'aurais dû arrêter le rap au lieu d'arrêter l'école. T'aurais dû lâcher la musique au lieu de lâcher des coms. J'ai un truc énorme entre les jambes comme un contrebassiste. Aussi vrai que t'es pas français si t'as pas un oncle raciste. Je débarque comme un tsunami. Tu vois défiler, défiler, défiler toute ta vie. Ou de la lit, je te fais passer sous le baby. Ton équipe fait pitié comme un orphelinat en Roumanie. Je rappe sous typon chez les ladies, bouge en Bounani. Arrêtez de mouiller, j'ai l'impression de baiser sous la pluie. J'arrive tête de gondole, texte de mongole. Tu bouges ta bête de coupe au bol. Avec ma petite copine, on se pète la tête aux jeans. Je la baisse complètement tête comme si j'étais nécrophile. Je la trompe que dans les autres villes, ça compte pas. Haltérophile sexuel, je soulève des meufs qui font deux fois mon poids. Je traîne avec des futurs médecins et des ex-tolas. Scredi Kruger à la prod et je suis ton pire cauchemar. Gringer Scred, c'est Baudelaire et Mozart. Abla, il va te refaire le portrait et il a jamais fait les beaux-arts. Je vénère les femmes à tête de chienne comme les Égyptiens. Je déteste les traves depuis que j'ai failli ken un Brésilien. Continue de rapper des mythos, tu le fais si bien. Tu parles de douille et de plomb, mais t'es électricien. Bref, si t'as des couplets de merde, poste le frein. Si c'est ça le rap game, je dois être le boss de fin. Si tu veux pomper Saint-Valentin, commence par avoir des rapports. Puceau, t'as du mal à baiser ta propre main. Dans la nouvelle scène, je suis le seul qui sort du lot. Je suis seul écrivain potable depuis Victor Hugo. Je marche sur l'eau, je nage sur le bitume. Et ça fait 3 minutes, Jimmy Punchline, 7ème magnitude.
Jimmy punchline
je suis la définition du mot punchline.
Jimmy Punchline, ce classique issu donc du premier album d'Orelsan, Perdu d'avance.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Orelsan, est-ce qu'on peut dire, quelque part, que Yoroi est un film de super-héros?
Non, je pense pas. Okay. Et je pense même qu'il souffre du fait qu'on pourrait croire que c'est un film de super-héros où on se dit encore un énième truc. Je pense que,
ouais.
que souvent, c'est les retours qu'on a où les gens se disent « Ah, j'étais pas très chaud d'aller le voir. » Et en fait, c'est bien, tu vois.
En fait, c'est plus simple que ce que... En tout cas, il n'y a pas le côté... T'as pas une cape et tu vas pas sauver le monde. C'est pas du tout ça.
Je vais pas sauver le monde. Je pense qu'il y a un truc où quand les gens ont vu le mélange Japon, armure, monstre, ils se sont dit « Ouh là là, ça va être un nanar d'appropriation culturelle d'un blanc qui va au Japon. » Pour sauver tout le monde. Et vraiment, le film, c'est pas du tout ça. On est plus proche des fois d'Evil Dead que d'un film de super-héros. Je dis Evil Dead parce que j'ai un sweet Evil Dead.
Exactement.
Et puis aussi parce que c'était une des refs du film. Mais des fois, en tout cas, c'était plus nos refs, tu vois.
Ouais.
Et après, mélangé avec un certain ton, un truc, des fois qu'on voulait un peu à la Spike Jones, un peu calme, un peu. Le film. Mais en tout cas, je c'est pas un film de super-héros.
C'est pas mais bon, du coup, parce que moi je voulais parler des rappeurs, du lien entre rap et super-héros,
ouais.
parce que c'est quand même quelque chose qui est présent. Toi, mine de rien, tu l'as depuis longtemps.
Ah bah ouais.
On y reviendra un petit peu après. Et puis, c'était pas le seul, notamment aux États-Unis. Il y a des personnes qui ont investi ce champ-là, et je pense notamment à Donald Glover, alias Childish Gambino, qui a un lien au super-héros, puisqu'il a prêté sa voix à Miles Morales dans la série Ultimate Spider-Man. Il joue dans Spider-Man Homecoming, et même les créateurs de Spider-Man Into the Spider-Verse ont dit que son style, son énergie et son personnage avaient inspiré le personnage de Miles. Est-ce que Childish Gambino, au-delà de votre peut-être intérêt commun pour le super-héros, c'est quelqu'un qui peut t'inspirer parce qu'il a aussi ce côté protéiforme comme toi, il a sa série Atlanta qui est extraordinaire. Enfin, est-ce que c'est quelqu'un que tu regardes?
Ouais, carrément. Et à la base, il a une série comique, tu vois. À la base, il
Community.
Joue dans Community.
Exactement.
Et en plus, on a une petite histoire ensemble où il m'avait demandé un feat à une époque et j'ai dit
c'est
non.
C'est vrai?
Oui.
T'as dit non à Childish Gambino?
J'ai dit au tout début.
Genre, quand tu fais Because the Internet, ce genre de projet.
Juste avant. Okay. Et en fait, je sortais de Perdu d'avance et il voulait. Il voulait se faire connaître un peu en France.
T'avais même pas fait le chant des sirènes encore?
Non, j'avais pas fait le chant des sirènes, ouais. Et on m'a proposé, j'ai écouté, je me suis dit, ah, c'est cool, mais tu sais, j'étais entre deux albums tout. J'ai dit, ah ouais, je vois, et je connaissais pas Community. Et j'avais quand même bien aimé l'album et tout, mais je sais pas, j'étais pas dedans. J'ai dit, ouais, écoute, je vais pas le faire et tout. Et en fait, j'aime trop, tu vois, cette chanson Summer est incroyable. Mais c'est exactement le genre d'artiste que. Où c'est une ref, où en plus, tu sais, c'est de bon goût.
Complètement.
Atlanta, c'est ouf. Monsieur et Mrs. Smith, c'est ouf. Monsieur et Mrs. Smith, il est sorti, genre, on avait déjà. On avait fini d'écrire Yo Roy.
C'est une série dans laquelle il joue.
Une série dans laquelle il joue et qu'il a produit aussi.
Ouais.
Et on venait de finir d'écrire Yo Roy et on a regardé, on a dit, waouh, la relation, elle est trop bien. Et c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire, mais c'était vraiment cool.
Okay.
J'aime trop Childish.
Ouais, ouais. Bah, ça m'étonne pas. Je pense que pour moi, il y a un truc un peu commun.
Ah, tu sais quoi, ça me fait trop plaisir.
Bah, non, mais ça se voit que vous êtes un peu entre cinéma, pop culture. Enfin, il y a un truc qui. Vous avez envie de toucher à différents terrains en plus, tous les deux.
Ouais, bah ouais, complètement.
Alors, à l'opposé total, il y a MF Doom.
Ouais.
Lui, c'est pas le héros, c'est le super vilain.
Ouais.
Il n'est pas juste dans l'attitude, dans toute sa construction artistique. Il emprunte son nom à Dr. Doom, le méchant iconique de Marvel. Il porte le masque en permanence sur scène, en interview, dans ses pochettes. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il n'imite pas un personnage. Il utilise le super vilain comme un mythe pour protéger ce qu'il a de plus fragile. And living the true gods, giving y'all nothing but the lick like two broads. Got more lyrics than the church, got ooh lords. And he hold the mic in your attention like two swords. Or you the one with two blades on it. Hey you, don't touch the mic like it's AIDS on it. Yeah, it's like the end to the means. Fuck type of message that sends to the fiends. Un extrait de Accordion, donc un classique de MF Doom. Je crois que c'est la quatrième fois qu'on le joue dans cette émission, cet extrait.
Ça met une émotion directe.
C'est toute une époque.
C'est tout.
Évidemment, qui nous a quittés. Donc, qu'il puisse bien sûr reposer en paix. C'est quelqu'un aussi que toi as évidemment écouté.
Bien sûr, toute l'époque Madlib, MF Doom, tout ça. Mais ce que j'aime, c'est que maintenant, il est vraiment reconnu comme une légende, où à l'époque, c'était un peu obscur, en tout cas en France, tu vois. Et moi, tu vois tout son flow et tout, t'écoutes, quand je fais des couplets rap classique boom bap, il y a forcément MF Doom qui ressort et tout, j'ai trop analysé ses patterns de rimes, même les prods découpés sales comme ça, et puis pff, il est trop fort.
Ah, c'était fou.
Les paroles, tout. Ouais, et puis c'était vraiment un perso, le côté.
Complètement.
Ouais, Dr. Doom.
Je me pose aussi la question parce que donc, oui, Dr. Doom, d'ailleurs, qui sera joué par Robert Downey Jr., Dr. Doom, dans les prochains Marvel. Est-ce que toi, finalement, tu t'es aussi posé la question à un moment de protéger ton identité? Il y avait rapidement le personnage de Rael San, mais qui était pour un morceau, avec un masque. Est-ce que c'est quelque chose que t'aurais pu faire ou que tu regrettes peut-être de ne pas avoir fait?
Pas trop, j'y pense souvent. Même, tu sais, en fait, il y a un côté, les artistes qui font pas d'interview et tout, qui restent mystérieux. Ouais. Ils sont cool, tu vois, parce que parce qu'en fait, tu t'exposes pas, on sait pas ce que tu penses, il y a un côté charismatique du mystère qui me plaît, tu vois, mais en fait, je crois que c'est pas ma personnalité,
c'est pas toi,
et j'ai envie d'assumer, j'ai envie de parler, de raconter des choses, et au final, avec une cagoule ou un masque, bien sûr, j'ai même fantasmé ce side project masqué, où tu fais un autre style de musique, mais j'ai pas le temps, et je sais même pas si... Je veux dire, là, j'ai créé tout un lore. Ouais. C'est un peu prétentieux. Je veux dire, j'ai envie de l'exploiter encore. Ouais, tu vois.
Et dernier exemple, Eminem, qui incarne un peu le super-héros, mais en version chaotique, incontrôlable. Depuis ses débuts, il a toujours assumé des personnages un peu bigger than life. Slim Shady, donc, sort de super-vilain, évidemment. Et le héros de Without Me, qui était inspiré dans des comics déjantés, on le voyait en costume de Robin. Et c'est quelqu'un qui a toujours un peu affronté ses propres démons, comme s'il s'agissait de super-vilains intérieurs. Surtout, le lien avec les super-héros n'est pas juste symbolique, il est l'un des rares artistes à avoir carrément son propre comics officiel Marvel. En 2009, Marvel sort Eminem and the Punisher, une BD où Eminem affronte The Punisher lui-même. Donc c'est un vrai numéro, hein, entièrement scénarisé, avec Eminem en personnage principal qui combat, qui tire, qui court, et donc qui survit face au Punisher. Ça, est-ce que c'est le Punisher? Est-ce que ça a été quand même influencé par les comics aussi quand t'étais plus jeune? Est-ce que ça t'a nourri peut-être même dans l'imaginaire de Yoroi? Même si Yoroi, c'est pas ça, mais le simple fait d'avoir une armure, d'avoir des pouvoirs, est-ce que ça t'a un peu marqué tout ça?
Bien sûr, même là, tu dis Eminem contre le Punisher, nous, c'est un peu ça qu'on voulait faire, prendre le perso d'Aurel San et le mettre dans un monde fantastique, tu vois. Donc déjà, et les comics, bien sûr, j'ai eu une grosse période comics, même si mon truc, c'est plus les mangas à la base.
Oui.
Mais j'avais un pote qui était très comics et qui me faisait tout lire et tout. Donc bien sûr, ça a eu une grosse influence, quoi.
Est-ce que t'en...
Et Eminem aussi, d'ailleurs.
Oui, mais est-ce que c'était compliqué au début de ta carrière quand le Eminem français, toi, tu l'as vraiment pris de plein fouet?
Parce
que t'étais un rappeur blanc qui faisait des blagues à l'époque de MySpace en plus. Donc il y avait quand même ce côté-là où c'était une comparaison qui revenait beaucoup dans les médias, notamment les médias généralistes.
Ouais, ce qui est dur avec les comparaisons, c'est qu'effectivement, j'aimais trop les deux premiers albums d'Eminem, les trois premiers, on va dire, et ça a eu une grosse influence, même limite avant que je rappe, ça se trouve, quand j'ai commencé à rapper. Et en même temps, je me voyais quand même tellement différent, tu vois, faire d'autres styles de musique, d'autres styles de chansons, avoir surtout m'éloigner un peu de ce style musical, tu vois. Et puis aussi, je sais pas comment dire, je pense que je suis un autre perso, tout simplement. Donc quand on t'appliquait des trucs d'Eminem, c'était un peu réducteur, même si c'est une légende de
bien
ouf.
Bien sûr, et que tu l'as écouté, évidemment.
Bien sûr.
T'aurais pas refusé un feat avec lui à l'époque?
Non, mais même là, je le refuse pas. En vrai.
Évidemment.
Alors que... Comment dire, c'est vraiment les trucs de l'époque.
Mais
j'y pense souvent. Et puis c'est des exemples aussi de ouf, tu vois, l'évolution de la carrière d'Eminem. J'y pense souvent. Et je me dis, ok, lui, il a fait ça, moi, je vais faire ça, tu vois.
Bon, je propose qu'on écoute un morceau dont on a un petit peu parlé. C'est dans quelques mois qu'un morceau, justement, le fameux morceau sur la grossesse, qui est un des morceaux, je pense,
Pardon. C'est pas le morceau sur la grossesse, c'est le morceau sur la peur d'être père.
Ah oui, pardon, c'est 2,5 qui est le morceau sur la grossesse. Exactement. Et c'est le morceau plutôt sur la peur d'être père. D'ailleurs, pour être père, qui était aussi un morceau de quelqu'un que tu connais bien.
Bah, de Damso, bien sûr. C'est pour ça que je l'ai pas appelé Peur d'être père et que je l'ai appelé dans quelques mois. J'ai dit mince, Damso, il l'a déjà fait.
Il l'a déjà fait sur Ipséité. Ouais. On s'écoute ça tout de suite dans quelques mois de Aurel San.
Ouais, c'est moi. Je sais que c'est bizarre de recevoir un message vu que t'es dans la pièce d'à côté, mais je pensais à la naissance là, vu que c'est dans quelques mois. Et je commence à sérieusement flipper. Et je sais pas, fallait que je te partage ce qui se passe dans ma tête. Ça me paraissait plus simple comme ça.
Dans quelques mois, dans quelques mois, dans quelques mois.
Il arrive bientôt, je serai jamais prêt.
Dans quelques mois, dans quelques mois. quelques mois.
Je vois même pas comment je vais savoir l'élever.
Dans quelques mois, dans quelques mois.
Je fais la liste des erreurs que je pourrais faire.
Dans quelques mois, dans quelques mois.
Un artiste torturé, ça fabrique des chefs-d'œuvre. Un papa torturé, ça gâche une vie. Tu sais bien comment je suis. Je laisse tout tomber, je suis pas sûr d'assurer sa survie. Imagine, je le vois, je l'aime pas. Imagine, ça me fait rien, j'ai pas d'empathie. Imagine, j'oublie, je rentre, je t'entends dire chérie, qu'est-ce que t'as fait du petit? C'est un cauchemar, je te jure, c'est sûr, on va le traumat. Tu l'enfermes dans sa chambre quand il a 230 ans plus tard, t'es un psychopathe. Je suis déjà au bord du burn-out. Qu'est-ce que tu veux que je gère une autre life? Imagine, on le rate, imagine le métissage, prends le pire de nos deux races.
Imagine, il prend que nos défauts, imagine mon ego et ton caractère. Il prend la mauvaise foi de mon père et il fait des histoires comme ta mère. Je sais même pas faire une machine. Pourquoi tu voudrais me confier sa vie? Si je couvre trop, j'en fais un fragile. Si je couvre pas assez, je fais un nazi.
Il arrive bientôt, je serai jamais prêt. Je vois même pas comment je vais savoir l'élever. Je fais la liste des erreurs que je pourrais faire. J'ai purement et simplement peur d'être père. Il arrive bientôt, je serai jamais prêt. Je vois même pas comment je vais savoir l'élever. J'ai la liste des erreurs que je pourrais faire. J'ai purement et simplement peur d'être père. Quand j'écris, je commence par faire un brouillon. Imagine là, c'est pareil. Imagine les nuits sans sommeil. Imagine la fatigue nous séparer. Paraît qu'à la première année, y'a plus de chances de divorce. Imagine, j'fais de mon mieux, mais j'suis pas fait pour ça. Imagine, c'est juste au-dessus de mes forces. Et si ça se passe mal à l'école? Les enfants maintenant sont féroces. Imagine, il se fait jamais de pote. Il est seul et triste comme quand j'étais gosse. Même si passe enfant sur à l'adolescence. Cette période où tu regrettes ta naissance. Je veux pas vivre le sexe, l'alcool, les drogues, l'insolence.
J'ai peur d'être un père absent. J'ai peur de faire les erreurs de nos parents, voire pire. J'ai peur de craquer, de redevenir celui d'avant. Des ex au sport, aux potes, est-ce que tu sais tout ce que j'ai laissé tomber? J'ai peur de laisser tomber, peut-être qu'on s'est trompé. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait?
Il arrive bientôt, je serai jamais prêt. Je vois même pas comment je vais savoir l'élever. Je fais la liste des erreurs que je pourrais faire. J'ai purement et simplement peur d'être père. Il arrive bientôt, je serai jamais prêt. Je vois même pas comment je vais savoir l'élever. Je fais la liste des erreurs que je pourrais faire. J'ai purement et simplement peur d'être père.
Dans quelques mois, dans quelques mois. Dans quelques mois, 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 dans quelques mois.
Dans quelques mois, donc, un morceau présent sur la fuite en avant de notre invité du soir, Aurel San.
Mehdi Maizi sur France Inter.
On parlait un petit peu, Aurel San, tout à l'heure, tu sais, de cette histoire d'alter ego, notamment avec Eminem, Slim Shady. Toi, t'as eu plusieurs alter ego,
ouais.
Rael San dans le passé, là il y a Sama,
ouais.
Quelque part. Et je me posais la question, est-ce que Sama, ça te permet aussi peut-être de dire des choses que tu ne penses pas, mais où tu peux justement aller sur un terrain un peu interdit?
Ouais, complètement. Sama, c'est une caricature du leader populiste, donc je sais que ce qu'il va dire, il y a des gens qui vont dire « Ouais, il a dit ça, tu vois ?» Et j'envisage encore de faire un truc où j'explique mon point de vue à moi, d'Aurélien Cotentin, versus le point de vue de Sama, parce que tout ce qu'il dit est faux, globalement, tu vois. Mais il y a un côté jouissif à écrire ce genre de perso. J'avais vu un truc de Virginie Despentes, où genre dans Vernon Subutex, elle écrivait un perso de méchant, comme ça.
Ouais.
Et j'avais entendu un podcast où elle disait « Je crois qu'à un moment, je prenais trop de plaisir à écrire ce perso méchant et à aller chercher, parce qu'en fait, déjà, c'est assez simple. » Et tu peux faire, c'est pour faire des punchs, c'est hyper cool.
Ouais.
Voir quelqu'un de purement méchant et sans filtre, je pense, nous, les êtres humains, ça nous fascine, tu vois, parce c'est le contraire de ce que j'essaye de faire dans ma vie, d'être mesuré.
De t'améliorer.
C'est ça. Et donc, que ce soit, en fait, la petite voix, c'est déjà Sama qui est en train de se former, tu vois, c'est ça l'histoire. Et donc, quand t'arrives à Sama et qu'il est juste en train de dire tout haut des trucs que beaucoup de gens pensent déjà tout haut, d'ailleurs, mais de dire les pires conneries bien tournées, et bah c'est un côté jouissif, ouais.
D'ailleurs, souvent, des comédiens disent qu'ils prennent parfois beaucoup de plaisir à jouer un méchant dans un film, parce qu'il y a quelque chose de jouissif, en fait, justement.
Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est le côté aussi exutoire. Et je pense même que le fait de le dire, comme ça, à voix haute, de manière bête, ça pose un peu, bon, c'est là, voilà ce truc, cette phrase, vous prenez comme vous voulez, maintenant on en débat et on explique pourquoi c'est faux, tu vois.
Sur la partie comédie, parce qu'on t'a vu finalement jouer la comédie, mais dans des projets à toi, Commencer Loin, Yoroi, est-ce que t'as envie de jouer la comédie pour d'autres personnes? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment envie de développer?
Ça dépend ce qu'on me propose. Ça dépend de... Moi, en fait, là, ce que j'aime, c'est développer des projets et continuer à faire des projets artistiques comme ça, liés un peu à ma carrière, tu vois. Donc, on me propose plein de projets, mais il y a plein de trucs où je me dis, est-ce que j'ai envie d'envoyer mon public voir ce truc au cinéma, sachant que peut-être ils vont pas aimer, et sous prétexte que j'ai juste pris du plaisir à le jouer, je pense pas que ce soit une motivation suffisante pour leur faire payer 15 balles, en gros, tu vois.
Ah, mais si toi, t'as envie de le faire.
Ouais, mais il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, tu vois. Là, j'ai envie de faire des fois des morceaux, même de n'importe quoi. Je les fais et je les sors pas. je le fais pour moi, mais je pense qu'il y a quand même un peu un respect du public où je leur sors pas. Et j'ai vu ça, par exemple, sur Civilization. Tu sais, on avait sorti les maquettes sur la réédition.
Ouais.
Et en fait, je me suis rendu compte que moi, l'idée, il y a des morceaux dedans, ils sont nuls, tu vois, mais vu qu'on en rigolait dans le doc,
ouais.
C'était genre, voilà, bon, bah ça, c'est les maquettes qu'on a fait. On les a sortis avec des titres maquettes, tu vois. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été bien compris parce que les gens, ils n'ont pas le temps, tu vois. C'est sur Spotify, il y a des morceaux. Et par exemple, j'ai un mec comme ça qui me dit, je comprends pas pourquoi tu as sorti ces trucs, c'est pas au niveau de l'album. Et moi, j'ai dit, ouais, c'est les maquettes.
C'était vendu comme ça, ouais.
Et puis, c'est un truc, ça existe en plus dans le rap, dans la musique, de vider son disque dur un peu.
Pour une réédition.
Ouais, c'est ça. Frank Ocean, il l'avait fait.
Bien sûr.
Kendrick, il l'a fait et tout. Et je pensais que les gens allaient dire, ah ouais, ok, ça c'était les maquettes, d'accord, on écoute. Peut-être tu réécoutes pas après.
Ouais.
Mais je vois que c'est difficile, peut-être aussi parce que j'ai une audience trop large, tu vois. C'est difficile des fois d'amener des trucs. Et c'est pareil pour jouer la comédie. De dire, bon bah voilà, j'ai joué dans ce film, je me suis pas investi plus que ça, j'ai kiffé. Je fais quand même la promo, allez le voir, tu vois. Et ça, je pense, j'ai pas le temps de faire ça, en fait.
Mais du coup, ça te met une pression supplémentaire parce que à chaque fois que tu communiques, c'est forcément sur des projets sur lesquels tu t'investis à 100% et qui sont que de toi. Il doit y avoir aussi quelque chose d'un peu peut-être de plus confortable, parfois, de s'abandonner sur un projet mené par quelqu'un d'autre qui n'est pas toi.
Ouais, ça serait bien. Et pour ça, je fais des feats aussi, des fois, tu vois.
Ouais,
ça, j'aime bien faire des feats sur les albums d'autres et tout, même si je donne mon meilleur, tu vois. Mais des fois, c'est assez agréable, tu vois. Les feats, c'est un peu la récréation. Ou, non, ce que j'aimerais bien, c'est jouer quelqu'un d'autre que moi. Pour sortir de ça. Ça me plairait. Mais il faut que le film, il défonce, tu vois.
Okay.
Et peut-être ça pourrait être un projet à moi. Déjà, là, quand je joue Sama, je joue quelqu'un d'autre que moi. Et c'est vrai que t'as pas mal de personnes qui ont été surpris et dit « Ah, c'est marrant, c'est toi, mais c'est pas toi, tu vois. » Et c'est vrai que j'aimerais bien un jour jouer, je sais pas, un autre mec, tu vois, juste pour m'amuser à le faire et jouer la comédie, quoi.
Aurel, c'est l'heure de la question qui tue.
Ok.
Alors, on a parlé quand même pas mal de rap aujourd'hui, et je vais te poser une question qui devient un peu un classique dans cette émission. Je l'ai posé à Soprano, je l'ai posé à Oxmo, je l'ai posé à Fianso. Quel est pour toi le plus grand album de rap français de tous les temps?
Tu sais que j'ai... Comment dire? Je suis un peu anti ça en ce moment, de dire...
Oui, il est top, mais là, c'est le plus grand album.
Ouais, mais en fait, aux différentes périodes de ma vie, j'ai pas écouté les mêmes trucs, tu vois. Donc, c'est dur d'en dire...
T'aurais du mal à en dire un.
J'aurais du mal à en dire un. En plus, je vais dire les mêmes que tout le monde, en fait, c'est ça le truc.
On a eu des réponses différentes.
Ah ouais, des réponses...
Mais c'est vrai qu'elles sont souvent liées à une même période.
Ouais,
C'est-à-dire la fin des années 90, surtout quand c'est des choses qu'on a vécues, on était jeunes à ce moment-là. Quoi.
Ouais, c'est vrai, mais après, je sais pas, c'est difficile, et puis il y a forcément Mauvais Oeil.
Ouais.
Moi, je pense, mais c'est vraiment purement perso, que c'est Le Combat Continu.
D'Idéalgie,
ouais.
Ok, bah tu vois, ça n'avait pas été dit en tout cas. Enfin, c'est un album que... Les gens adorent, et je veux dire, dans cette émission, il n'avait pas encore essayé avec un album de 98.
98, c'est un des premiers albums de rap français vraiment que j'écoute. Et en plus, que j'aime bien parce qu'il a un côté quand même un peu mainstream, tu vois, le hardcore. Je me rappelle, j'étais au lycée. Et genre, on écoutait le morceau dans le réfectoire, et il y a trop de propos. Les prods de DJ Mehdi, c'est légendaire et c'est vraiment le son français, tu vois. Mais on l'a tous vu, le doc de Mehdi, qui est incroyable. Et je suis content parce que ça a mis ça en lumière, un truc dont beaucoup de gens parlaient en disant ça, c'est le son français de cette époque, c'est la French Touch du rap,
exactement,
tu vois, un peu. Et donc c'était incroyable.
Les gens ont compris ça avec ce documentaire.
Ouais. Du propos, des morceaux sur l'addiction, Nuages de fumée, le retien, la folie, les prods, Kerry James... Tout ce qu'ils disent, ça me touche. Et hardcore, tu vois, hardcore, et puis même rien que les intros.
Ouais, l'intro, elle est folle. Ouais, ouais.
Je sais pas, trop de trucs, même le fait que, je sais pas, il y a le côté groupe, Posse, Teddy Corona, c'était vraiment un album que je me suis pris, et en plus, moi j'avais été dans une petite ville, j'habitais à Alençon, donc ce qu'il racontait, c'était pas ma vie.
C'était pas du tout de ta vie.
Il aurait pu avoir un truc qui me touche pas du tout, tu vois, et en fait c'était tellement bien écrit, tellement puissant musicalement que ça me touchait, tu vois.
Aurel San, merci pour la réponse.
Voilà, finalement, je l'ai fait.
Et merci d'avoir été là aujourd'hui, vraiment. La Flûte en Avant donc, est disponible. Yoroi est toujours disponible également dans les salles. Merci beaucoup. Et merci aussi aux personnes qui ont préparé cette émission. Alexia Lacour, Redouane, t'es là. L'émission réalisée par Gaëtan Coy. La programmation musicale est finie. Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Loïc Frapsos et Théo de Lobadère. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, on recevra Reda Kateb.
Voilà, ok, dans cette très
émission.
Bien. Voilà.
Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France. Merci Aurel San.
Merci.